Alors, on a une troisième question, il y a une troisième conclusion du rapport. J'insiste, je vous invite vraiment à lire ce rapport parce que il y a un ensemble de chapitres qui sont très. Alors, je reviens un peu en arrière, mais il y a six chapitres dans le rapport. Il est vraiment écrit avec une visée pédagogique et à destination des recruteurs pour être utile. Mais je pense qu'il peut être utile aussi comme support d'enseignement. Je pense en particulier le chapitre 2, égalité et discrimination dans l'accès à l'emploi, de quoi parlons-nous, qui fait en fait une synthèse des principales interprétations économiques, sociologiques et psychosociologiques des mécanismes discriminatoires, du rôle des stéréotypes, des discriminations implicites, même des tests dans ces domaines. Donc, je pense que c'est intéressant, ce support est intéressant, peut-être intéressant pour vous. Donc, et puis, je reviens donc à la question, enfin au sujet qui nous intéresse maintenant, hein, les réformes et l'action. L'action pour les discriminations. Alors, j'ai consacré aussi un chapitre à cette thématique, qui est le chapitre 3 du rapport, qui s'appelle « L'action publique pour l'égalité dans l'accès à l'emploi ». Nous sommes donc l'action publique pour l'égalité à l'accès dans l'accès à l'emploi public. Donc, que font les recruteurs publics pour améliorer l'égalité d'accès ? Alors, j'ai observé qu'il y avait clairement deux ensembles d'actions. Il y a une première ensemble d'actions qu'on peut appeler, disons, les actions classiques, qui sont héritées de l'organisation de la fonction publique, hein, qui a été largement construite et reconstruite dans l'après-guerre, et dans laquelle donc on a réellement mis en avant la primauté du concours avec toute l'organisation du concours, savoir l'indépendance du jury, son impartialité, son unicité, les grands principes, hein, et leur traduction sont hérités de l'après-guerre. Et on a donc largement développé, hein, donc, enfin, tous les aspects qui caractérisent un concours, le caractère collectif du jury, le caractère public des épreuves d'admission, l'anonymat des épreuves, l'anonymat des candidats dans les épreuves, et toutes les traductions matérielles de cet anonymat, l'égalité formelle des candidats, le fait que chaque candidat ait exactement le même nombre d'épreuves, le même contenu d'épreuves, la même durée d'épreuves, avec un barème unique, l'égalité d'accès au concours, l'égalité d'accès à l'information sur les concours, et puis après la publication des postes, enfin, tout cet arsenal d'organisation juridique et réglementaire, hein, est un ensemble d'actions pour favoriser l'égalité de tous dans l'accès à l'emploi public. Et la question, enfin clairement le constat, qui est celui des acteurs publics, de la fonction publique d'État en particulier, est que ces actions ne sont plus suffisantes. Toutes les actions classiques, l'organisation même du concours, l'anonymat, l'impartialité du jury, tout cela n'est pas suffisant, puisque depuis maintenant une petite dizaine d'années, hein, d'autres actions ont été mises en œuvre, sont développées, alors de façon un peu hétérogène, selon les acteurs publics. Au sein de la fonction publique d'État, disons, il y a des ministères qui sont plus ou moins avancés. On peut dire aussi que la fonction publique d'État est globalement plus avancée que la fonction publique hospitalière ou que la fonction publique territoriale, qui sont sur un mode extrêmement décentralisé, hein, déconcentré. Il y a le principe de libre administration des collectivités territoriales. Donc chacun, sur la base d'une base légale commune, chacun a des pratiques qui peuvent être très différentes d'une collectivité à une autre ou d'un centre hospitalier à un autre. Dans la fonction publique d'État, c'est un peu plus standardisé, mais il y a aussi des différences fortes entre tel ou tel ministère, grand ou petit. Et dans les ministères, on a constaté, donc depuis une dizaine d'années, entre 2008 et aujourd'hui, un déploiement de nouvelles actions pour l'égalité. Donc moi, je parle de nouvelles actions publiques pour l'égalité, Alors, du haut vers le bas, ça va d'un portage politique. Il y a effectivement donc des comités interministériels qui se réunissent régulièrement pour, sur ces questions-là. Il y a des engagements de ministères avec des traductions institutionnelles sous la forme de chartes, de labels. Il y a deux grands ministères qui ont signé des labels de diversité, le ministère des Affaires sociales, les ministères économiques et financiers. Il y a un ensemble donc, de circulaires, il y a des textes. Il y a partout dans la sphère publique, à l'image de ce qui se passe dans le privé, dans beaucoup de grandes entreprises, des créations d'observatoires, de missions pour l'égalité, de pôles pour la diffusion de l'information et sur l'égalité. Alors c'est l'égalité femmes-hommes et beaucoup l'égalité selon l'origine. On a aussi une plus grande information sur les recrutements. Avec le développement d'outils internet comme par exemple le site Score, il y a un site central pour l'organisation des concours de la fonction publique. Il y a des bourses, les bourses interministérielles de l'emploi public comme la BIEB par exemple, qui a son équivalent dans la fonction publique hospitalière et territoriale. Donc il y a un grand nombre d'actions pour rendre public, diffuser toutes les offres d'emploi mais aussi les concours. Il y a une réorganisation territoriale des concours, alors dans le sens souvent d'une plus grande économie budgétaire, c'est-à-dire plus de concentration des concours, peut-être moins de concours, des mouvements de mutualisation, de concentration, qui aussi modifie la donne en matière d'égalité d'accès à l'emploi public. Il y a ce que les recruteurs appellent la professionnalisation du recrutement. Donc, on essaie de rendre le recrutement d'agents publics plus professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça porte notamment sur le contenu des épreuves. Les épreuves sont un peu moins axées sur les connaissances. L'image, souvent, c'est la princesse de Clèves. Enfin, c'est des épreuves qui seraient très littéraires ou qui porteraient uniquement sur telle ou telle connaissance pour leur substituer des épreuves axées sur les compétences. Compétences plutôt que connaissances. Et épreuves sur les compétences, ça peut être par exemple le développement dans beaucoup de concours de simulations, de mise en situation, de tests, parfois d'épreuves collectives pour observer le comportement des futurs agents face à des situations concrètes hein, et donc les observer un peu in situ. Donc c'est des simulations professionnelles. Et puis il y a aussi le fait que les recruteurs se placent en position de recruteur professionnel. Recruter, c'est un métier, et donc ça implique d'avoir des procédures, d'appliquer des procédures qui ont un caractère professionnel. Il y a des règles de constitution des jurys également qui visent l'alternance, par exemple l'alternance femme-homme, l'alternance de tel ou tel comme président du jury, des règles de constitution en termes de parité, de pluralité qui s'appliquent dans tous les domaines de la fonction publique. Il y a aussi, alors depuis quelques années, mais maintenant c'est absolument massif dans certains ministères, des actions de formation à destination des recruteurs. Donc si vous êtes président d'un jury ou membre d'un jury, on va vous demander de suivre une formation dans laquelle, ça va être une formation au recrutement, dans laquelle il y aura peut-être une matinée, une après-midi, sur une sensibilisation aux stéréotypes, une sensibilisation à la discrimination. On va vous expliquer ce que c'est qu'une discrimination, pourquoi est-ce que la discrimination peut se faire à votre insu. Si la formation est bonne, on va vous expliquer que vous pouvez être victime de discrimination et donc comment prévenir les discriminations. On va vous former à l'usage de grilles d'évaluation pour dire attention, c'est pas le recruteur tout seul qui peut forcément tout inventer, c'est bien de suivre, d'expliciter les critères, d'objectiver les raisons pour lesquelles on préfère tel candidat à tel autre. Et puis on a aussi donc des voies d'accès aménagées, notamment avec des postes réservés, avec les recrutements PACT, avec des filières, les recrutements réservés à des personnes handicapées ou des aides, des incitations financières qui peuvent être données aux établissements publics pour recruter des personnels handicapés. Il y a aussi les classes préparatoires intégrées. Donc, dans de nombreuses grandes écoles, on développe des classes préparatoires intégrées. Il y a par exemple une CPI à l'ENA, il y en a dans d'autres grandes écoles du réseau des grandes écoles des services publics. Il y a le développement de l'apprentissage qui est présenté souvent. Il y a un plan là, de 10 000 apprentis dans la fonction publique. L'apprentissage est présenté aussi comme un moyen d'instaurer une certaine égalité des chances à destination des personnes issues des milieux les plus défavorisés. Et puis, donc, il y a tout un ensemble d'autres actions hein, qui vont, par exemple, de la gestion des stages, de la gestion des saisonniers, de la définition des fiches de poste. Alors, vous voyez, quand on fait le total de tout ça, ça fait un peu une liste à la Prévert, mais on se dit, en fait, il y a beaucoup d'actions qui sont déployées dans des registres très différents. On pourrait presque parler d'une inflation de l'action publique dans le domaine de l'égalité. Inflation au sens où il y a un développement du volume de ces actions. Et ce que j'observe, j'ai observé effectivement avec un travail qualitatif qui est proche de ce qu'on peut faire en sociologie, en discutant avec les entretiens auprès des recruteurs, c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité des pratiques d'un ministère à un autre ou d'un versant de la fonction publique à un autre. Donc une très très grande hétérogénéité des pratiques. Et puis l'absence totale d'évaluation de ces dispositifs. Aucun des dispositifs dont je viens de faire la liste n'a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse permettant d'en mesurer l'impact. Donc on n'a pas de preuves statistiques. Alors en étant très exigeant, il y a des preuves statistiques dans lesquelles on a mesuré un impact causal, toutes choses égales par ailleurs. Ça, il n'en est question nulle part. Mais on n'a même pas de début de preuve en comparant avant-après ou bien ici et ailleurs voilà, des débuts de preuve. Alors on a une grande accumulation, un empilement de dispositifs nouveaux et très peu de preuves sur l'efficacité de ces dispositifs. Il y a clairement une prise de conscience dans le domaine de l'emploi public, les choses ne sont pas satisfaisantes, en tout cas que les actions classiques ne suffisent pas, que le recrutement par concours ne garantit rien, et donc il lui faut lui ajouter autre chose. Il y a une grande variété d'actions dans cette direction-là, mais pas véritablement de preuves sur l'effet de ces différentes actions. Donc se pose effectivement la question, hein, je pense que dans ce domaine, beaucoup plus que dans d'autres, de l'évaluation de l'action publique. En plus, pour vous dire, les ressources humaines du public sont vraiment irriguées par une culture qu'on peut qualifier de new management public. On a une culture qui est positive, qui est presque un peu même scientiste. Hein. On a des objectifs, on a des instruments, on veut réaliser des objectifs avec des instruments, on veut montrer que ça marche, on veut organiser les choses de façon la plus rationnelle possible, on veut donner les ressources là où effectivement il le faut. Donc, dans ce contexte, l'absence d'évaluation des mesures est un constat qui ne peut satisfaire absolument personne. Donc, par ailleurs, il n'y a pas ou peu de plaintes. Il y a dans les administrations parfois des dispositifs de recueil de plaintes, mais très très peu de plaintes internes, par exemple de candidats qui se sentiraient victimes d'une discrimination. Alors, moi, à la réflexion, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de plainte ne prouve absolument rien, puisque les discriminés, dans le cadre d'un concours, dans le cadre d'un recrutement public, ont une vision très partielle du déroulement du concours. Et souvent, si c'est un recrutement contractuel, par exemple, ils ont eu un ou plusieurs entretiens avec un recruteur, mais ils n'ont pas assisté aux autres entretiens, ils ne savent pas quels sont les candidats concurrents, éventuellement. Cette vision très partielle fait qu'ils sont dans l'impossibilité d'établir l'existence, ou même une suspicion de discrimination. Ils n'ont pas la possibilité de comparer les autres candidats. Et je pense que le discriminateur lui-même, il n'est pas nécessairement, je pense que l'image du discriminateur qui serait ouvertement raciste, sexiste, ne convient pas à la réalité des problèmes. Je pense que l'image type du discriminateur, c'est quelqu'un qui croit bien faire, mais qui est bourré de stéréotypes comme nous le sommes tous. Nous avons des préjugés sur absolument tous les sujets. Il faut qu'on soit bien conscient il est intéressant d'objectiver ces préjugés pour avancer dans le domaine de la lutte contre la discrimination. Donc les discriminateurs n'ont pas forcément conscience qu'ils ont des préjugés, donc des raccourcis cognitifs qui associent telle caractéristique individuelle à telle caractéristique professionnelle et qui vont déformer leur jugement, qui vont leur faire préférer tantôt un homme à une femme, tantôt à une personne ayant un patronyme qui évoque une origine franco-française plutôt qu'un patronyme qui évoque une origine étrangère. Donc on a ces phénomènes, cette donne qui fait que l'absence de plainte n'est pas du tout, ne prouve rien, et donc on a vraiment la nécessité d'évaluer les actions. Alors, pour évaluer les actions, le problème, c'est que dans le domaine des discriminations, la méthode de référence, c'est le test de discrimination. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette méthode si on veut évaluer une action antidiscriminatoire? Ce qui pourrait être fait, c'est de faire un test avant et test après. On teste la situation avant et on reteste après. Ce type de démarche, bon, faire du avant-après, je mets en œuvre une action de lutte contre les discriminations. Avant de la mettre en œuvre, je fais des tests pour avoir un état des lieux. Je mets en œuvre l'action. Après la mise en œuvre, je fais des tests. Ça paraît tout bête, mais à ma connaissance, personne n'a jamais fait dans aucun espace de l'administration publique pour évaluer aucune action dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Alors, il y a d'autres méthodes qui sont possibles, notamment il y a un travail qui a été fait aux Pays-Bas où on fait vraiment l'évaluation expérimentale d'une mesure antidiscriminatoire. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre en œuvre de façon partielle l'action, donc l'une des actions que j'évoquais tout à l'heure, pour une partie du recrutement seulement, et on ne va pas la mettre en œuvre pour une autre partie du recrutement. Par exemple, on a un ministère avec plusieurs établissements publics. Pour la moitié des établissements publics, on va mettre en œuvre l'action. Pour l'autre moitié, on ne va pas la mettre en œuvre. Et on va voir si effectivement ça change les choses. Ça peut être envisageable, évidemment. Ça n'existe pas aujourd'hui en France, hein, dans aucune administration, aucune collectivité. Il y a eu des essais dans telle ou telle collectivité, mais on est très loin d'avoir quelque chose de satisfaisant. Alors, dans ce contexte, hein, où il y a, disons, absence totale d'évaluation et de preuve expérimentale, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce qu'on a réalisé, nous, c'est une stratégie, disons, de second rang, en utilisant les données de concours. L'idée, ben, on a quand même une source de données, c'est les fichiers de gestion des concours. Et donc, on peut regarder pour chaque concours de la fonction publique, partout où les données existent, vraiment, elles existent, comment, s'il y a des différences de composition à chaque étape du concours. En fait, on a une approche qui peut être aussi qu'on peut qualifier de quasi expérimentale. Un concours, c'est quoi? C'est une première étape d'admissibilité dans laquelle les candidats composent à l'écrit. Et puis, il y a une deuxième étape d'admission dans laquelle les candidats sont confrontés au jury et c'est l'épreuve des oraux. Il y a évidemment une différence entre les deux étapes, c'est que les caractéristiques individuelles des candidats sont révélées au jury au moment de l'oral, alors que ce n'est pas le cas au moment de l'écrit. Donc l'idée, c'est de voir s'il y a, par exemple pour les femmes, est-ce que les femmes ont plus de réussite à l'écrit qu'elles n'en ont à l'oral. S'il y a une différence de réussite des femmes à l'oral par rapport à l'écrit, on pourra l'attribuer au fait que le fait d'être une femme vient d'être révélé au jury, et donc peut-être que les préférences du jury peuvent s'exprimer davantage au moment de l'oral qu'elles n'ont pu le faire au moment de l'écrit. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est avoir une approche quasi-expérience, ou d'expérience quasi-naturelle, et ce que l'on... Donc, quand on met en œuvre ce type d'approche, hein, alors on l'a fait sur les bases de concours des affaires étrangères, du ministère du Travail, de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Ce qu'on a regardé, donc on a des dizaines d'années de bases de concours, c'est des fichiers considérables, à des exploitations extrêmement, extrêmement lourdes. Et donc ce que l'on regarde, c'est d'une part s'il y a des différences entre l'écrit et l'oral. Par exemple, ici j'ai le ministère de l'Intérieur, les concours de gardien de la paix en Ile-de-France. Hein. Je regarde si. Ici on regarde inégalité selon les lieux de résidence, c'est les personnes qui habitent la commune de résidence a une forte emprise de quartier politique de la ville versus les autres personnes. On voit qu'ils ont moins de chances de réussite à l'écrit, moins de chances de réussite à l'oral, et qu'ils ont même une détérioration de leurs chances entre l'écrit et l'oral. Donc les personnes qui habitent dans des quartiers défavorisés, pour le concours gardien de la paix Île-de-France, on met en évidence statistiquement le fait qu'ils sont pénalisés à l'écrit. Ça, c'est une inégalité, c'est pas forcément une discrimination. Ils sont pénalisés à l'oral. Ça, c'est une inégalité, c'est pas forcément une discrimination. Mais surtout, ils sont plus pénalisés à l'oral qu'à l'écrit. Et ça, ça suggère une discrimination. Et donc c'est ce que l'on fait. Alors il faut faire ça pour tous les concours systématiquement, et après on rajoute une dimension, c'est la dimension temporelle, pour voir si cette discrimination éventuelle s'est améliorée ou s'est réduite au fur et à mesure du temps, sachant que dans le temps, on a eu toutes les actions que j'évoquais tout à l'heure qui ont été déployées. Donc on voit si le cumul de toutes ces actions change les choses. Et vous voyez, ce qu'on constate, c'est que dans ce tableau, donc c'est toute l'évolution est dans les cases grisées que vous ne voyez pas très bien, mais c'est sur le à chaque fois à la partie droite, c'est là où il y a plein de zéros. Donc il n'y a que des zéros. Ça veut dire que dans le temps, on ne constate pas ou peu de changement entre les pénalités subies à l'écrit, les pénalités subies à l'oral ou la variation des pénalités écrit-oral pour tous nos candidats. Il y a un seul cas, c'est le concours donc d'adjoint administratif catégorie C du ministère des Affaires étrangères, où on constate qu'effectivement il y a une évolution positive des chances de réussite à l'oral. Et puis on peut refaire ça pour d'autres critères, par exemple né en France ou né hors de France métropolitaine, dans lesquels on va avoir à la fois les ultramarins et puis les personnes qui sont nées hors de France. Hors de France, y compris d'hommes. Et donc, et là, on voit aussi que on trouve des situations de concours qui ont l'air discriminatoires, notamment contrôleur du travail, concours de catégorie B du ministère du Travail. On voit que être né hors de France, on a moins de chances de réussir à l'écrit, on a moins de chances de réussir à l'oral, et on a encore moins de chances de réussir à l'oral qu'à l'écrit. Donc, il y a une dégradation de la situation. Et par contre, aucune évolution dans le temps. Il n'y a aucun changement de cette situation entre le début des bases de données et la fin, c'est-à-dire en gros entre 2005-2006 et 2016. Donc tout ça nous indique, c'est des preuves indirectes, nous indiquent que non seulement les actions pour la lutte contre l'extrémisme ne sont pas évaluées, mais on a disons des soupçons qui indiquent qu'elles ne sont probablement pas ou peu efficaces dans ce domaine. Donc c'est pour ça que le rapport a été accompagné d'un certain nombre de recommandations pour aller dans cette direction, mettre en œuvre des véritables évaluations des actions qui sont menées, développer des campagnes de testing un peu plus systématiques pour pouvoir compléter les sources de données, et puis aussi, pendant qu'on y est, harmoniser les fichiers de gestion des concours, parce qu'en fait, on s'est aperçu que chaque administration avait son propre fichier, et que l'organisation de ces fichiers était extrêmement différente. Donc, dans le cadre de la loi Égalité Citoyenneté, il va notamment y avoir cette idée d'harmoniser les déclarations, les candidatures aux différents concours, ce qui nous permet de suivre presque en temps réel les chances relatives des hommes et des femmes dans les différents concours, ou les chances relatives des personnes qui sont nées en France ou en dehors de France, ou qui ont telle ou telle autre caractéristique, notamment habiter une commune défavorisée. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu long.